EMCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission spéciale sur le thème de l'infertilité. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Il y a de l'espoir pour les couples stériles ». Et aujourd'hui, c'est Joël qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans « Pasteur, j'ai une question », Anne répondra à la question « En tant que chrétien, que penser de la procréation médicalement assistée ?» Nous continuerons avec la rubrique « Témoignage » dans laquelle Aurélie nous partagera le témoignage d'une femme qui a été guérie de sa stérilité. Et nous terminerons avec la rubrique « C'est mon histoire » dans laquelle Sephora Bastrache nous a raconté comment Dieu a vaincu sa stérilité en lui donnant 3 beaux enfants. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous.
Bonjour Evelyne.
Est-ce que vous allez bien aujourd'hui?
Ça va bien.
Merveilleux. Pasteur Joël, c'est ta dernière émission officielle en tant que chroniqueur dans Bonjour chez vous.
Bien oui.
Tu nous abandonnes, mais tu nous abandonnes parce que tu as des beaux projets. Donc, on peut voir tout de suite à l'écran ce que tu vas faire, ce que tu as déjà commencé à faire, ton émission de télé anglophone qui s'intitule Joël Spinks Today. Est-ce que tu peux nous en dire juste quelques mots?
Ben oui, absolument. Eh bien, premièrement, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous à l'émission Bonjour chez vous. Et puis, j'étais avec mon épouse l'autre jour et puis je parlais justement des projets que Dieu avait déposés sur mon cœur, en fait, qui avaient été premièrement donnés par prophétie par Jean-Luc Traxel.
D'accord.
C'était le premier à me donner une parole comme ça concernant le monde anglophone, mm-hmm. parce que moi, j'avais vraiment oublié le monde anglophone. J'étais vraiment concentré, je suis toujours concentré
Sur la francophonie.
Mais il m'avait donné une parole, « N'oublie pas le peuple anglophone ». Donc, cette parole a été déposé en moi, j'ai laissé cette parole mûrir et puis après j'ai eu plusieurs autres prophéties semblables. Donc je savais que je devais passer à l'action et vraiment commencer cette émission anglophone. Le but, en fait, je crois, c'est de faire connaître l'état du peuple francophone dans le monde anglophone.
Mm-hmm.
Je pense que ça, c'est vraiment le but. Donc Dieu ne m'appelle pas à abandonner la francophonie, mais d'aller chercher
un pont un peu entre les deux, si on veut.
C'est ça, d'aller chercher des personnes qui vont appuyer la mission francophone dans le monde anglophone.
Ah, mais...
Bref, donc c'est une émission qui ressemble un peu à Vie de foi, sauf que le décor est différent, comme vous voyez. Et puis, bien, mon cœur, c'est de continuer à proclamer ce Jésus qui est vivant, qui transforme des vies aujourd'hui. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que je sais que Dieu a dirigé dans cette direction-là. Mais pour y arriver, avec déjà tout ce que j'avais à faire, avec Enseigne-moi, l'église locale, des fois, il y a des bons projets. On doit choisir ce que Dieu nous appelle à faire.
Exactement.
Donc, des fois, c'est difficile, mais je parlais avec Mathilde et puis j'ai eu une confirmation dans ma même conversation pendant que j'étais avec mon épouse. Et puis, hier matin, pendant qu'on avait une réunion de prière à l'église, il y a une sœur qui a eu une vision d'une parole, en fait, que j'avais reçue. Donc, j'ai vraiment vu des confirmations dans cette direction où je devais m'investir encore plus dans mon anglophone. Donc, je réponds à l'appel, mais pour y arriver, je me retire de cette émission Bonjour chez vous.
Mais tu reviendras nous voir en tant qu'invité de temps en temps.
Ben oui, je pourrais venir vous voir, ça va me faire un plaisir.
Ben merci à toi, et donc tu es encore avec nous aujourd'hui, et c'est toi qui vas faire la pensée du jour, mais avant tout, je veux juste resituer donc l'émission, et ces deux émissions qu'on va faire, l'émission de demain également, qui sont des émissions spéciales sur le thème de l'infertilité. Donc, si vous souffrez d'infertilité, vraiment, ces émissions sont pour vous, je vous encourage à ouvrir votre cœur. Peut-être certaines personnes se disent « Ah, je vais encore avoir de faux espoirs » ou peut-être être déçue. Non, croyez que Dieu est fidèle et qu'il peut et qu'il veut intervenir dans vos vies. Et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Pasteur Joël, c'est toi qui fais la pensée et le titre est « Le Dieu des conceptions miraculeuses ».
Absolument. Comme on était en prière juste avant le tournage de cette émission, on a vraiment préparé cette émission dans la prière parce qu'on croit que Dieu veut vous donner de l'espoir aujourd'hui. Mm-hmm. Et j'ai entendu dans mon esprit le mot « repos », tout simplement. Et je crois que Dieu vous appelle, si vous êtes en ce moment dans une période d'attente, vous souhaitez avoir un enfant et peut-être vous êtes épuisé. Bien, Dieu vous dit d'entrer dans son repos, mais un repos dans la foi. Vous savez, il y a le combat de la foi, mais ce combat-là, on peut le vivre à partir d'une place de victoire, une place de repos en Christ, sachant que nous plaçons notre foi en lui, c'est lui qui va faire le miracle. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est être engagé dans la foi. Mais des fois, on est là, on est perturbé, on a des inquiétudes et on s'imagine que c'est comme ça qu'on va remporter la victoire. Mais Dieu, aujourd'hui, vous dit, entrez dans mon repos, faites-moi confiance et puis soyez remplis d'espoir. Peut-être aujourd'hui, vous êtes là et puis vous vous posez la question, est-ce qu'on va arriver un jour à avoir des enfants? Peut-être ça fait plusieurs mois ou plusieurs années que vous attendez et vous êtes peut-être même découragé ou désespéré. Bien, j'aimerais ça vous encourager aujourd'hui. Et si vous dites, mais comment faire pour vraiment demeurer dans l'espoir si on a essayé à maintes reprises et nous sommes toujours en attente? Bien, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est vraiment de vous voir comme Dieu vous voit. Premièrement, vous êtes une personne bénie. C'est la première chose. Changez votre façon de vous voir. Mais voyez-vous comme Dieu vous voit. Vous êtes béni. Et si vous êtes béni, vous avez un héritage en Christ. J'aimerais vous lire, en fait, le psaume 127 au verset 3 dans la Bible Osterwald qui dit « Voici les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Et puis, si vous savez que vous êtes béni de Dieu, vous pouvez commencer à croire Dieu pour la bénédiction, tout simplement. Mmh. Et vous savez, on a souvent encouragé les gens à croire Dieu pour une guérison physique, une provision. Peu importe le besoin, on doit se voir comme étant béni de Dieu et que Dieu est là pour nous. Il entend nos prières et puis il veut aussi nous accorder ce que notre cœur désire. Et c'est Dieu qui dépose en nous les désirs, n'est-ce pas? Donc, si on veut avoir des enfants, on peut dire, Seigneur, j'ai un droit à la fécondité. Et parce que en fait, dans Galates 3:13, il est écrit que Christ nous a rachetés de la malédiction. Pourquoi? Pour qu'on soit béni. Et les enfants, la Bible nous dit, les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Donc, vous pouvez réclamer et déclarer cette parole avec foi. Et je vous dis ça pas d'une façon juste à la légère, mais je veux vraiment vous encourager. Vous pouvez prendre la parole de Dieu et reprendre le texte, le psaume 127, verset 3, que je viens de vous lire, et dire au Seigneur, « Seigneur, tu as dit dans ta parole que les enfants sont un héritage. Seigneur, je reçois par la foi mon héritage en toi. Mm-hmm. » Et puis dans Exode 23, verset 26, il est écrit, « Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Bien, ni femme stérile. Vous pouvez dire, bien, Seigneur, je suis béni. Et moi, je veux prendre ce verset-là pour moi-même. Je veux croire, justement, que je vais avoir des enfants.
Amen.
Amen. Mais si jamais vous êtes devant le doute et vous dites, bien, c'est très bien ça, ce que vous dites, c'est très bien, c'est un verset dans la parole, dans l'Ancien Testament, mais moi, je suis encore découragé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire devant le doute? Bien, j'aimerais ça aussi vous inviter non seulement à vous voir béni, mais aussi voir la bénédiction de Dieu dans la vie des femmes de Dieu qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, par exemple. Dans Ésaïe 7, verset 4, dans Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament, mais en fait, c'est une prophétie qui concerne Marie, la mère de Jésus. Mm-hmm. En fait, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Vous savez, Dieu est capable de faire l'impossible. Aujourd'hui, on pourrait dire, bien, c'est impossible qu'une femme qui est vierge, qu'elle puisse enfanter, c'est impossible. Mais ce que l'homme dit est impossible, Dieu dit, c'est possible. Donc, peu importe le rapport que vous avez reçu, peut-être le médecin vous a dit, c'est impossible. Mmh. En fait, moi, je pense à ma cousine qui avait un quart d'un ovaire qui lui restait. Et puis, elle avait juste ça. Et puis, le médecin lui avait dit, oubliez ça, vous n'aurez jamais d'enfant, c'est impossible pour vous. Mais elle a cru Dieu, elle a dit, Seigneur, même un quart de mon ovaire est suffisant pour toi. Et puis, finalement, elle a eu 3 enfants. Donc, ne perdez jamais espoir. Et puis, si le texte de Marie ne vous inspire pas, vous dites, bien, on comprend ici, là, Marie, c'était la mère du sauveur de l'humanité. Est-ce que Dieu va faire la même chose pour moi? Est-ce que je peux vraiment relâcher ma foi? Parce que moi, je pense pas que Dieu m'appelle à porter le sauveur du monde. Et je suis en accord avec vous. Ce n'est pas votre cas, mais vous faites quand même exercer votre foi. Si Marie ne vous inspire pas, pensez à Sarah qui avait 90 ans. Écoutez bien ce texte. Genèse 21, verset 2. Et Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps précis dont Dieu lui avait parlé. Donc vraiment, il n'y a rien d'impossible pour notre Dieu. Mais ce que Dieu a besoin, c'est que vous lui faites confiance, que vous puissiez croire sa parole et vraiment trouver un repos en lui aujourd'hui. Vous savez, des fois, juste quand on est prêt à abandonner les œuvres de la chair et puis tout ce qu'on peut essayer de faire pour avoir notre enfant, juste le fait d'entrer dans un repos peut créer ce miracle pour vous, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et dans Jérémie 32, au verset 27, il est écrit, « Voici, je suis le Seigneur, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose trop difficile pour moi? » Et peut-être c'est ça que Dieu est en train de vous poser aujourd'hui comme question. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour votre Dieu? Bien, la réponse, si vous doutez, c'est non. Il n'y a rien d'impossible pour notre Dieu et rien de trop dur. Donc aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, c'est vous voir comme Dieu vous voit. Vous êtes une personne bénie, vous êtes un couple béni, gloire à Dieu. Vous avez des illustrations dans la parole de Dieu où Dieu est intervenu d'une façon miraculeuse. Gloire à Dieu, vous pouvez nourrir votre foi avec ces témoignages-là. Mais aussi, vous pouvez voir l'infertilité comme une montagne devant vous. Une montagne, mais la Bible nous dit qu'on peut parler à la montagne. Donc, vous pouvez vous adresser à cette montagne d'infertilité et dire, « Infertilité, tu quittes ma vie. » Dans le nom de Jésus, nous recevons notre héritage en Christ et nous recevons notre bébé que nous désirons tant avoir. Amen. Croyez Dieu pour votre miracle, louez-le pour votre miracle, bercez dans votre cœur votre miracle et d'ici quelque temps, vous bercerez dans vos bras votre bébé dont vous souhaitez avoir. Soyez bénis.
Amen. 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 Gloire à Dieu. Oui, c'est une espérance extraordinaire. C'est une promesse que Dieu nous fait. On va regarder le verset du jour qui est aujourd'hui le psaume 113 au verset 9. Mesdames, messieurs, prenez cette parole pour vous. Il installe en sa maison la femme stérile. Elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Cette joie à laquelle les femmes aspirent, ce désir d'être mère, Dieu dit qu'il l'installe dans sa maison. Cette femme stérile, il l'installe dans sa maison et lui fait cette joie de devenir mère, pas d'un enfant juste parce que Dieu veut nous faire une petite grâce. Non, de multitudes d'enfants, de nombreux enfants, parce que c'est ce que Dieu veut. Après, c'est le nombre qu'on en veut. Mais je veux dire, Dieu n'est pas limité. C'est pas juste, allez, je te fais grâce une fois, et puis Dieu n'est pas limité. Il y a vraiment cette disponibilité. Amen. Dieu veut qu'on ait des enfants et il peut nous en donner. C'est quelque chose qui est vraiment important de comprendre.
Amen. Oui. Puis la parole est pleine de promesses. On voit dans la parole que, s'il me semble bien qu'il y a, je crois, 8 personnes, 8 femmes qui sont stériles dans la Bible. Et je partageais ça à l'église l'autre jour, et en fait, il y en a 7 qui ont accouché d'un enfant. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas stériles.
Ah ouais.
Mais dans la vie, on peut avoir une position et une condition. Et Dieu veut qu'on parle sur notre position qui est d'être des héritiers du royaume. Mm-hmm. Notre condition, peut-être que c'est comme Sarah, d'être stérile à un moment. Mais sa position, c'était qu'elle était celle qui allait enfanter.
Amen.
Cette promesse. C'était ce glorieux héritage avec tous ses enfants, cette postérité d'Abraham, c'est elle qui allait l'enfanter. C'était sa position. Donc aujourd'hui, on peut vraiment s'accorder sur notre position plutôt que sur notre condition. Dieu veut vraiment qu'on s'élève. Et puis il nous donne, si sur huit personnes, il y en a 7 qui ont accouché dans la parole alors qu'ils étaient déclarés stériles, c'est que Dieu, il y a une véritable espérance en Dieu. Puis la personne qui n'a pas accouché, qui n'a pas eu d'enfant, c'était un cas très particulier où elle s'est moquée de loin de l'Éternel.
Ouais.
Et c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Mais les autres, elles ont toutes accouché, que ce soit Élisabeth, que ce soit Anne, que ce soit Sarah, que ce soit toutes, elles ont toutes eu un enfant.
C'est merveilleux, vraiment.
Mais moi, je sens que Dieu veut vraiment mettre dans la bouche des femmes qui nous écoutent vraiment un chant nouveau, une nouvelle vie, en fait. Et c'est vraiment quelque chose à saisir. C'est quelque chose à saisir, toutes les vérités qui ont été partagées, que ce soit dans la pensée du jour, que ce soit ce que Gwen vient de dire. C'est quelque chose à saisir. C'est de réaliser que Dieu, il le veut vraiment. Dieu désire que les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, Dieu désire que vous soyez comblées. Dieu désire que vous ayez cet enfant que vous demandez au Seigneur. Et vraiment, il veut mettre dans votre bouche un chant nouveau, un chant de joie, un chant d'allégresse. Et commencez à chanter ce chant. Commencez vraiment à le voir, à le chanter. Et vous allez voir que Dieu est fidèle. Dieu a toujours été fidèle. S'il l'a fait dans la vie de toutes ces personnes, comme on a pu le voir, mais il le fera aussi dans votre vie. Donc, chantez votre chant de victoire parce que Dieu est là et il va le faire, il veut le faire pour vous.
Amen.
Il y a quelque chose qui est, je pense, un frein majeur, c'est que il y a de l'incrédulité qui s'installe quand un médecin vient nous dire vous êtes infertile ou vous êtes stérile. Et l'incrédulité, il n'y a rien de pire parce que ça va tout verrouiller.
Oui.
Et ce que disait Aurélie sur le chant nouveau, il faut vraiment qu'il y ait un chant nouveau dans la bouche des femmes parce que le chant nouveau déverrouille ce qui a été verrouillé. Et quand on commence vraiment à confesser la gloire de Dieu, sa grandeur, il se passe vraiment des choses.
Oui.
Ce n'est pas juste de l'auto-persuasion, je ne sais pas quelle technique psychologique. Il se passe vraiment des choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui minimisent l'impact de ce qu'on va prononcer, des choses sur lesquelles on tient. Et quand tu chantes un chant nouveau, que tu commences vraiment à chanter la gloire de Dieu, il y a des choses qui se passent vraiment. Et il faut vraiment faire sauter ces verrous. L'incrédulité, la déception, Je pense, bon, il y a des cas d'infertilité, des cas de stérilité. Il y a aussi des cas de fausses couches à répétition. Mmh. Et ça, c'est typiquement le genre de terreau sur lequel l'ennemi va mettre des verrous. Mmh. Des verrous pour nous empêcher de croire. Mmh. Et le premier pas avant d'accéder à tout ça, c'est déjà de faire sauter ces verrous-là.
Exactement.
Faire sauter l'incrédulité et dire non. Moi, le Dieu en qui je crois est un Dieu puissant, un Dieu qui veut me bénir, un Dieu qui a déjà tout pourvu à la croix. Mmh. Et ça, ça va être le premier verrou qui va sauter. Mmh.
Et là, alors qu'on parle, je ressens qu'il y a certaines personnes qui avaient perdu espoir et qui nous écoutent et qui disent « Là, vous êtes en train de me redonner espoir, mais ça fait X années que j'attends. Et est-ce que ça va être encore un fou ?» Il y a une crainte. Vraiment, je veux vous encourager. N'ayez pas peur d'avoir de l'espoir. Parce que Dieu est espoir. Mmh. Et vous n'avez pas à avoir peur d'avoir encore un faux espoir, d'être encore déçu. Vous pouvez vraiment croire. Ce qui est dit sur ce plateau, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Et il y a plein de témoignages qui viennent pour l'appuyer, pour montrer que c'est une réalité. Mais je veux vraiment vous encourager à ne pas avoir peur de croire que c'est possible. Vous avez peut-être fait votre deuil d'être mère, d'être père, en disant « ça ne nous arrivera pas, nous, on va continuer notre vie comme ça ». Mais Dieu veut ressusciter l'espoir en vous. Et ce chant nouveau dont tu parles me fait aussi penser à éliminer cette frustration, l'amertume qu'on a accumulée en glorifiant Dieu, en commençant à déclarer de notre bouche que Dieu est fidèle, qu'il ne nous a pas oubliés, qu'il veut notre bien. On élimine, on sort l'amertume, la frustration, la douleur, les blessures, parce que c'est des années où on transporte des choses qui sont douloureuses, qui sont très, très douloureuses. Et c'est important, donc, vraiment, cette parole que tu as donnée, Aurélie, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous en saisir à la maison, parce que vraiment ce chant nouveau que Dieu veut mettre dans votre bouche, laissez-le monter. Vous allez voir, ça va venir de l'intérieur. D'un coup, il y a comme une joie qui va commencer à jaillir de vous, un désir de glorifier Dieu, de dire combien il est puissant, combien il est incroyable. Vous ne saurez pas d'où ça vient. Laissez sortir ces paroles de votre bouche qui vont prophétiser finalement sur ce que Dieu veut faire dans votre vie. Mmh. Et dans certains cas, l'attente est longue, le temps passe et puis on commence à imaginer des solutions parce qu'on veut s'en sortir et c'est tellement légitime. Ouais. Et on commence à penser à différentes techniques médicales. Les médecins nous proposent des choses et Anne, tu vas répondre à une question qui est délicate mais qui est importante parce que dans le corps du Christ, on se pose cette question. Dans Pasteur, j'ai une question, nous avons eu la question de Myriam et Samuel qui sont mariés depuis 10 ans et qui n'ont pas d'enfants. Ils viennent de la France et ils demandent, en tant que chrétien, que penser de la procréation médicalement assistée ? Anne, tu as la lourde tâche de répondre à cette question.
Oui, bah tu dis que c'est une question difficile. C'est une question difficile parce que j'allais dire c'est une question auquel personne n'a jamais été confronté dans les générations précédentes et Dieu nous a pas fait pour être confronté à des questions comme ça.
Non.
Dans le
ça
temps,
n'existait pas, quoi.
Dans le temps, si tu voulais un enfant puis que ça ne venait pas, ta seule espérance c'était de mettre ta foi en Dieu. Pour beaucoup de choses, pour l'argent c'était pareil. Pour beaucoup de choses, on avait comme seule ressource de s'adresser à notre Dieu. Et maintenant, la science a des solutions à nous proposer. Alors, bon, on n'a pas à juger ou à rejeter en bloc systématiquement, on n'est pas des gens arriérés, mais il y a quand même des réalités qu'il faut vraiment saisir derrière tout ce qu'on nous propose. Quelquefois, on nous propose des choses qui sont anodines, qui sont, bon, je veux dire, c'est bon à prendre, on va donner un petit coup de pouce à la nature, il n'y a rien là. Mais parfois, on va nous donner des coups de pouce, mais qui vont impliquer d'autres choses. Et nous qui sommes croyants, qui avons des valeurs, il y a certains actes médicaux qui vont avoir des enjeux éthiques et même des enjeux de foi pour nous qui sommes croyants. Je pense qu'il faut déjà savoir exactement de quoi on parle. Parce que là, on parle de procréation médicalement assistée comme d'une seule chose. Mais en fait, ce n'est pas une chose, c'est plusieurs choses.
Dedans. Oui.
Et selon l'élément qu'on prend, les enjeux ne sont pas les mêmes en tant que croyant.
Oui.
Donc, je voulais juste faire un tout petit panorama de ce qu'on nous propose pour vous montrer qu'il n'y a vraiment pas un enjeu équitable entre les différentes solutions. On nous propose quatre choses différentes. La première chose, c'est la stimulation ovarienne. Là, on parle d'infertilité. La stérilité, c'est quand on peut absolument pas avoir d'enfant. Et l'infertilité, c'est quand on n'a pas une totale impossibilité. Donc là, on va vous proposer une stimulation ovarienne, c'est-à-dire qu'on va stimuler les hormones de la maman. Bon, alors on va voir un peu plus tard ce que ça peut impliquer. On a l'insémination artificielle. Bon, là encore, c'est le sperme du papa qui va être implanté dans la maman. Il y a aussi la fécondation in vitro. Et là, c'est les spermatozoïdes du père et ceux de la et les ovules de la mère vont être rencontrés. On va faire se rencontrer artificiellement. Et là, il y a des embryons qui vont commencer mm-hmm. à se développer. Et certains embryons vont être implantés chez la maman, d'autres vont être congelés. Et puis, on va les utiliser plus tard. Et la quatrième chose, c'est la fécondation par micro-injection. C'est-à-dire qu'on a, avec une micro-seringue, on va mettre un spermatozoïde dans l'ovule de la maman, mais à l'extérieur du corps. Mm-hmm. Puis ensuite, c'est pareil que dans la fécondation in vitro. Les embryons vont se développer. Le médecin va en choisir certains, les implanter à la maman, etc. Alors, qu'est-ce qu'on en pense en tant que chrétien ? Vous comprenez bien que quand on parle d'insémination artificielle, c'est juste un petit coup de pouce à la nature. Mmh. On va prendre le sperme du papa, et puis pour une raison ou pour une autre, mécanique ou quoi, ça ne peut pas marcher. Mmh. Prendre le sperme du papa, le donner à la mère, mmh. et on donne un petit coup de pouce. Là, l'enjeu de foi n'est pas énorme. Par contre, quand on parle d'embryons qui commencent à se développer en dehors du corps de la maman, ça peut poser problème, parce qu'on se dit... Là, c'est une autre question aussi, mais il faut y réfléchir. À partir de quand commence la vie ? Mmh. Est-ce que la vie a commencé, là, quand l'embryon se forme ? À partir de quand est-ce qu'on peut considérer que la vie a commencé ? Mais si la vie a déjà commencé, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes vies ? C'est déjà des vies qui ont été créées. Et il y a des enjeux éthiques qui sont importants. Les médecins se sont déjà posé la question. Il y a des gens qui sont spécialistes en éthique qui ont réfléchi à la question. Ce n'est pas si simple. Mmh. Donc, quand un médecin va vous proposer une fécondation in vitro, posez bien les bonnes questions. Qu'est-ce que vous allez faire avec les embryons qui restent ? Mmh. Est-ce que si vous en implantez 4 qui ont marché, entre guillemets, est-ce que vous allez en enlever après pour pas qu'il y en ait trop ? On appelle ça la réduction embryonnaire. Oui. Il y en a 5 qui prennent dans votre éprouvette ou dans votre boîte de pétri. Vous allez en implanter 4, 5, mais la mère ne peut pas en porter 4 ou 5. Et là, je pense qu'on a une photo, il y a une maman chrétienne qui a eu une... comme ça, qui a décidé de ne pas avoir de réduction embryonnaire. Mmh. Et puis, elle s'est retrouvée avec ses 5 petits. Mais c'est très dangereux. Ils ont été accouchés à 28 semaines. C'est des très grands prématurés avec aussi toutes les séquelles qu'il peut y avoir. Mmh. Et même la stimulation ovarienne, vous allez me dire, là, il n'y a rien là. On stimule les hormones de la maman. Mmh. Puis ça, sauf que tu les stimules tellement que parfois, le risque de grossesse multiple est vraiment augmenté. Mm-hmm. Et on peut se retrouver comme ça avec des quadruplés, avec des triplés, des quintuplés.
Mm-hmm. Et on propose des réductions.
Et là, le médecin va vous dire, non, vous ne pouvez pas les garder tous, il faut absolument en enlever.
Ouais.
Et donc là, quand on est chrétienne, et quand on est chrétien, parce que les papas sont concernés, il faut bien considérer toutes ces choses, parce que ça implique, ça va beaucoup plus loin que de donner un petit coup de pouce à la nature. Mm-hmm. Et on peut se retrouver avec la joie de vraiment tomber enceinte, mais aussi avec le retour de bâton, de devoir faire des choix douloureux. Mm-hmm. Quand le médecin va vous dire, on va juste vous en garder 2, et puis est-ce que vous êtes d'accord qu'on enlève les 3 autres ? Alors, c'est des choix éthiques, n'attendez pas d'être confronté au problème pour y réfléchir. Mm-hmm. On ne va pas juger ceux qui le font, parce qu'il n'y a pas de jugement. Mm. C'est une telle douleur, et des fois même des gros problèmes... même sociaux, familiaux, de ne pas avoir d'enfants, on ne peut pas juger. Mais si vous êtes en train de réfléchir à la procréation assistée, je parle à ceux qui nous écoutent, procréation médicalement assistée, informez-vous bien, priez, demandez vraiment la conduite de Dieu dans cette affaire-là, parce que vous pourriez être confronté à des choix qui vont après vraiment vous mettre très mal à l'aise devant Dieu. Mmh. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Mmh. Donc, posez-vous les bonnes questions avant. Et c'est vraiment mon encouragement aux personnes. Et aussi, je voudrais finir en disant que même si on fait des erreurs, Dieu est miséricordieux et fidèle pour les pardonner. Donc, s'il y a des gens qui ont déjà eu recours à la procréation médicalement assistée, puis qui ont peut-être vécu des réductions embryonnaires,
ou qui ont des remords,
je veux leur dire que Dieu est un Dieu miséricordieux, que sa miséricorde durera toujours. Mmh. Et qu'il est fidèle et juste pour pardonner quand on a fait une erreur. Mmh. Il est le seul qui peut alléger le poids d'un cœur qui peut se sentir condamné. Mmh. Il n'y a pas de condamnation. En tout cas, sur notre plateau, il n'y a absolument pas de condamnation pour personne. Mais des encouragements, vraiment, vous fiez en Dieu. Dieu est grand. On a parlé de témoignages de gens qui étaient désespérés d'avoir des enfants et à qui Dieu en a donné. Mmh. Alors, croyez, mettez votre foi en action et puis... Réfléchissez peut-être à 2 fois avant d'avoir recours aux solutions que les hommes vous proposent. Mmh. Elles sont peut-être bonnes, mais peut-être que Dieu a une meilleure solution pour vous.
Mmh. Amen. Mmh. Avant de passer à la rubrique témoignage, on va regarder une vidéo d'un couple qui, justement, a attendu très longtemps et finalement qui a été exaucé par Dieu. Merci beaucoup, Anne, pour ta réponse. On va la regarder tout de suite.
Rien n'est plus difficile à vivre pour un couple que l'infertilité. Amy et Jason ont désiré un enfant pendant 10 ans. Ils vivent pourtant entourés de miracles. Leurs prières et leurs supplications étaient comme sans réponse. Pendant des années, ils traversent toutes sortes de questionnements, de doutes, de peines. Jusqu'au jour où, après 10 ans, la jeune femme a un retard dans son cycle.
Je ne pouvais pas regarder à nouveau le test et constater que ce n'était pas positif.
Il est positif. Elle achète un autre test, à nouveau positif.
Ok, super, peut-être que c'est vraiment positif, peut-être que je suis enceinte, c'est dingue. Ce sont comme des vagues d'émotions si intenses qui viennent sur vous. Tu ne réalises pas à quel point c'est devenu si lourd à porter, jusqu'à ce que ce soit enfin enlevé.
C'est vraiment arrivé. Seigneur, tu es fidèle.
Et toutes les étapes du parcours reviennent à ton esprit. Et nous étions assis là avec Jason, avec ce test dans la main, et nous pensions juste aux 10 dernières années de notre mariage, et la présence de Dieu dans la chambre était... Je ne l'oublierai jamais.
Waouh, il y a des témoignages magnifiques et qui encouragent. Et on continue, on va passer maintenant à la rubrique témoignages. Aurélie, on continue sur la lancée des témoignages merveilleux. Et puis même après, avec C'est mon histoire, parce que vraiment, les témoignages sont ce qui parle le plus dans ces moments-là. Aurélie, tu as un témoignage pour nous?
Oui, c'est Laure de France qui a été guérie de sa stérilité en regardant l'émission In Studio. Elle nous a fait une vidéo qu'on peut regarder maintenant.
Bonjour, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi. Et à peu près 2 ans et demi, avec mon conjoint, on a essayé en fait d'avoir un deuxième enfant. Ce qui s'est transformé en fait en plusieurs échecs. Du coup, on est parti voir un médecin. Et il a fait plusieurs examens. Il nous a dit que nos chances étaient quasi nulles d'avoir un deuxième enfant. Donc du coup, à l'époque, on avait accepté le verdict. Et donc j'étais triste et tout, et un beau jour, le Seigneur m'a mis à cœur guérison divine. Donc du coup, je suis allée sur internet pour me renseigner un petit peu par rapport à ça, et c'est là où je suis tombée sur la vidéo d'Audrey Mac sur la foi victorieuse. Et j'avais reçu vraiment comme une grande révélation à ce moment-là. J'ai vraiment senti au fond de moi que j'étais guérie de ma stérilité et que je pouvais tomber enceinte en fait. Et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à déclarer la parole. J'ai commencé à parler à mes ovules, j'ai commencé à parler à ma stérilité, à mon utérus en disant oui que je pouvais tomber enceinte. Et je commençais vraiment à me visionner enceinte, vraiment j'ai déclaré la parole. Et au moment où je devais recevoir mes règles, donc j'ai des symptômes, donc j'ai commencé également à déclarer la parole sur mes symptômes en leur disant de partir, parce que j'avais déjà la victoire en Jésus. Et 3 jours après, j'ai fait un test et j'avais du retard, donc je suis tombée enceinte. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire aujourd'hui aux femmes stériles que vous pouvez vous aussi tomber enceinte. Il suffit d'y croire en fait et de déclarer la parole. Et je tenais vraiment à remercier également Audrey Mac parce que le Saint-Esprit m'a guéri vraiment à travers elle. Merci beaucoup.
Amen. Vraiment, on voit que Dieu est vraiment puissant et il agit encore aujourd'hui. Et vraiment, son témoignage est interpellant. Elle a quasi tout dit dans son témoignage. Mm-hmm. Et moi, j'ai juste envie d'encourager en fait les personnes qui nous écoutent. C'est que si Dieu a pu le faire pour Laure, Mais Dieu peut le faire dans la vie d'une femme qui nous regarde aujourd'hui. Elle dit qu'elle s'est appuyée sur quelque chose, sur la parole. Elle avait remarqué qu'elle ne déclarait pas assez la parole. Et il y a des personnes qui, comme on a dit il y a pas longtemps, ils se sont peut-être appuyés sur le fait que ça fait trop longtemps. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on a l'occasion, l'opportunité de nous appuyer sur la parole de Dieu. La parole que la situation peut changer aujourd'hui. Et c'est ça qu'on veut vous transmettre, en fait. C'est ça qu'on veut véhiculer. Dieu l'a fait pour elle, c'est arrivé. Et vraiment, nous croyons que pour vous, ça arrive aussi.
Amen, amen. C'est pour vous aussi, vraiment. Soyez encouragés. Ne manquez pas l'émission de demain. Demain, nous parlerons... Oh, mais non, j'ai laissé mon histoire, excusez-moi. Je veux d'abord que nous puissions regarder le magnifique témoignage de Séphora Bastrache dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Séphora Bastrache. Bonjour Séphora.
Bonjour Evelyne.
Ça va ?
Oui, ça va, merci.
Merci d'accepter cette invitation à venir nous raconter
c'est un plaisir pour
ton
moi.
Histoire. Et tu vas encourager beaucoup de couples aujourd'hui, j'en suis convaincue, au travers de ce merveilleux témoignage de ce que Dieu accomplit dans ta vie. Et pour commencer, je vais juste te présenter rapidement. Tu es pasteur de louange à l'église Oasis,
oui,
à Sainte-Julie, pas très loin de Montréal, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, comme moi. Je suis une mauvaise Québécoise, que veux-tu?
Ah, c'est correct.
Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Ça fait 11 ans que tu es mariée.
Oui.
Tu as quitté la France, tu t'es déracinée pour venir t'installer au Québec. On dirait pas, mais avec
oui.
Un accent québécois, mais tu es française. Et ton mari et toi, après votre mariage, vous avez eu le désir d'avoir des enfants, ce qui est tout à fait légitime et normal. Mais les choses se sont pas vraiment passées comme prévu.
Non.
Tu as commencé à avoir des soucis de santé.
Oui, alors... Quelques temps après qu'on se soit mariés, je dirais environ 1 an et demi, 2 ans, on s'est dit que c'était le temps d'avoir des enfants.
Oui.
C'est ça. On était rendus là dans notre vie. Et on a essayé d'avoir des enfants. Et au bout de plusieurs mois, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Et là, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, toutes sortes de... mes cycles menstruels n'étaient plus réguliers. J'avais pris énormément de poids en quelques mois. Je parle de 60 livres environ en 1 an, ce qui est quand même énorme.
Oui.
Puis je suis allée voir le médecin qui me fait passer des examens, puis le premier diagnostic qu'il me donne, c'est on pense que tu as une tumeur au cerveau.
Oh.
Donc là, j'avais 25 ans, je pense, 25-26, puis je fais les analyses puis finalement c'était pas une tumeur au cerveau, mais ça a pris très longtemps qu'on découvre qu'est-ce qui se passait avec ma santé. Je me suis rendue à une clinique de fertilité à Montréal, puis ils ont fait des tests plus poussés. Et j'ai reçu le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques. Donc, ça, c'est...
C'est-à-dire, pour ceux qui
ne
connaissent pas?
Il y a plusieurs conditions qui viennent avec le syndrome des ovaires polykystiques. C'est différent selon chaque femme. Il y en a, c'est au niveau de la fertilité. La plupart, c'est la fertilité, mais ce n'est pas toutes.
D'accord.
C'est aussi des conditions sur ton corps, sur ton humeur, sur tes émotions, aussi, tu peux perdre tes cheveux, tu prends énormément de poids. Il y a vraiment comme toutes sortes de conditions. Il y a différents stades au niveau de cette maladie-là, mais c'est une maladie qui ne se voit pas.
Mm.
Donc, il n'y a pas vraiment de symptômes. La plupart du temps, c'est des symptômes comme esthétiques, je dirais,
oui.
Plutôt que des symptômes vraiment... vraiment. Quelqu'un ne saurait pas, il
oui.
me regarde, oh, elle est malade, mais les gens ne savent pas forcément. Mm-hmm.
Donc, et toi, ça a affecté ta fertilité, justement.
C'est ça. Donc, on s'est rendu à cette clinique-là. J'ai fait des examens et je me souviens par une très merveilleuse journée de novembre, la docteure m'annonce que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Elle m'a fait une échographie. Ils avaient vu mes ovaires n'étaient pas dans un bel état. En fait, ce que ça faisait, c'est qu'au lieu d'avoir des ovulations, les ovules se fixaient sur mes ovaires. Donc, mes ovaires étaient des beaux petits...
nuages?
des colliers, on aurait dit, vraiment, avec des ovules tout autour. Et c'était beau sur l'image, là. C'était vraiment beau. Mais la docteure qui m'a fait l'examen, elle était pas... c'est ça. C'était pas... il n'y avait pas beaucoup de tête. Elle m'a dit, en tout cas, si tu veux avoir des enfants, tu peux essayer, mais ça n'arrivera jamais. Là.
Ah, d'accord.
Puis, vraiment de cette façon-là. Donc, j'avais 25, 26, puis on t'annonce ça, puis t'es comme, OK, c'est difficile. Là.
Le coup de massue.
Ben, c'est parce que tu t'attends pas à te faire dire ça de cette façon-là, surtout quand tu es une jeune femme, que tu veux des enfants, que c'est un des désirs que tu veux, parce que là, c'est tout le questionnement ensuite qui vient. C'est comme, ben là, si je suis mariée, qu'est-ce que va penser mon mari si je peux pas lui donner d'enfants? Tu sais, en tant que femme, je pense qu'on se remet souvent en question, puis qu'on est jamais assez sécure dans qui on est. Et c'est ça, c'est comme, qu'est-ce que va penser mon mari de... Si je peux pas lui donner d'enfant, ma vie ne vaut plus rien. Qu'est-ce que je suis en tant que femme si je suis pas mère? Donc, je m'identifie à ça, à être une maman.
Et ça a été difficile
pour toi, vraiment? Oui, ça a été vraiment difficile. Ça a été des mois vraiment, vraiment horribles. Des mois où j'ai pleuré, où tu sais, où tu pleures, puis c'est juste un cri de désespoir qui sort. Puis les gens ne le savent pas, ce que tu vis. Donc, souvent, les gens sont maladroits.
Oui.
Souvent, les gens, ben, c'est pour quand les enfants? Il serait peut-être temps... Mais c'est parce que t'as pas envie de raconter à tout le monde.
Non.
Ben là, je vis ça, puis je vis ça, puis je vis ça. Puis hier soir, j'ai pleuré toute la nuit, j'ai pas dormi. Tu sais, tu veux pas que tout le monde sache. Tes proches le savent, mais les gens que tu rencontres, ou même à l'église, quelquefois, c'est pas tout le monde qui le sait, c'est pas tout le monde qui sait ce par quoi tu passes.
C'est très intime, en fait.
Oui, parce que c'est ta personne, c'est toi. C'est je peux pas avoir d'enfant. Puis c'est à ça que je m'identifie. Je ne peux pas avoir d'enfant. Donc, c'est ça, là, dealer avec la maladresse aussi. Puis, quelquefois, les gens, ils veulent pas mal faire. C'est juste que, bah, c'est juste normal. Tu te maries.
Ben oui.
Tu rencontres quelqu'un, ben, c'est quand les fiançailles. Tu te fiances, c'est quand le mariage. Tu te maries, c'est quand le premier enfant. Tu finis à peine d'accoucher, c'est quand le deuxième. Tu sais, c'est juste le cycle normal.
Les gens veulent se réjouir avec nous, finalement.
Exactement.
Mais ça implique beaucoup de maladresse.
Exactement. Surtout quand tu vis quelque chose d'aussi lourd. Puis, tout est construit par rapport à la famille, maintenant. Oui. C'est rare que tu vois un couple qui ont pas d'enfants. Tout est construit par rapport à la famille. Moi, j'ai des amis qui ont choisi de ne pas en avoir, puis je les célèbre pour ça, mais c'est sûr que les questions viennent toujours. Ben alors, pourquoi? Parce que ça paraît pas normal de ne pas avoir d'enfants. Et donc, cette journée-là, on avait un GU le soir, Génération Unité, un mouvement dont je fais partie.
Et ça, c'est comme une grande conférence annuelle.
Oui,
en fait.
C'est un mouvement de prière et d'intercession à travers pour le Québec et la francophonie. Et ce soir-là, c'était Denise Goulet qui prêchait. Puis j'avais dit à mon mari, oublie ça, je vais pas au GU, je suis pas en état, je n'irai pas.
C'était trop mal, quoi.
Oh non, j'étais, mes émotions étaient sur le bord d'exploser, j'allais vraiment pas bien du tout. Puis j'avais pas envie de voir personne.
C'est ça.
Non plus. J'avais ce moment où je voulais juste être toute seule puis me morfondre dans mon désespoir toute seule.
C'est ça.
J'avais besoin de pleurer ma vie, là, vraiment. Et il m'a dit, non, viens-t'en. Puis j'y suis allée. Et là, Denise Goulet prêche. Puis elle prêche sur Anne et Pénina. Donc, bien sûr, Anne et Pénina, c'est pas l'histoire que tu veux entendre quand tu vis une situation d'infertilité. Anne qui peut pas avoir d'enfants, puis Pénina qui a des enfants. Puis là, elle prêche là-dessus, mais son message était tellement encourageant. Puis j'avais vraiment l'impression que ce message était juste pour moi. J'étais assise, puis c'est comme si j'étais toute seule dans la salle.
Oh, wow.
Puis suite à ça, je suis allée voir Denise. Denise a prié pour moi. Mm-hmm. Ça, c'était en novembre. Mais bon, ensuite, ben, la vie continue.
Mm-hmm.
On arrive au mois de janvier. Puis là, le temps des fêtes avait été quand même assez difficile aussi. Et
la fin de l'année est souvent difficile.
Oui,
hein?
Le temps des fêtes, c'est ça, l'hiver aussi, on peut se le dire. Oui, l'hiver. L'hiver québécois, il n'est pas tendre avec nous.
C'est vrai.
Et j'étais restée à la maison cette journée-là parce que j'allais vraiment pas bien. Je ne suis pas rentrée travailler. Et à ce moment-là, je travaillais en garderie. Je comblais mon besoin d'avoir des enfants en travaillant en garderie. Et donc, je n'étais pas rentrée travailler. Puis, je priais, je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Tu sais, j'étais dans cette phase vraiment d'incompréhension. Pourquoi? Et j'étais en train de lire ma Bible. Et puis, le passage dans lequel j'étais, c'était en Habacuc. Ne l'as-tu pas compris? Ne l'as-tu pas entendu? La promesse est là, elle s'en vient. Je m'excuse, je suis vraiment pas bonne pour mes références bibliques. Mais c'était vraiment comme, la promesse est là, elle s'en vient. Puis, j'ai dit, OK, ouais, ça tombe bien pour aujourd'hui, je m'accroche à ça. Puis là, je m'en vais chercher mon courrier à la poste, puis j'étais abonnée à Joss Mayer. Je sais plus c'est quoi le nom de ce que je recevais, là. Mais c'est comme en début d'année, on recevait toujours des petites lettres, puis tout ça. Puis là, dans le paquet qu'il y avait, il y avait un aimant carré qui était marqué dessus « I promise you », signé « God ». Puis la lettre qu'il a... Je te promets,
Dieu.
Oui, je m'excuse. Oui, je te promets, je signé « Dieu ». Merci. Et... là, ça juste fait comme, OK, wow, Dieu, tu me promets. Tu me promets. Donc, tu t'accroches à ça. Puis je vais très sincèrement, tu as des ups et des downs. Ouais. Il y a des jours où c'est comme, yes, Dieu m'a promis. Mais le lendemain, c'est, OK, t'es où, Dieu?
Mais tu avais ça que tu avais mis sur ton frigo.
J'avais mis sur mon frigo. Oui, j'avais mis cet aimant-là.
Ça te rappelait finalement aussi ce verset sur lequel tu avais médité.
Exactement, parce que j'avais mis le verset aussi en même temps.
De venir, c'est ça.
Et donc, suite à ça, c'était en janvier. Puis au mois de mars, je pense que c'était fin mars, début avril, on s'en va à un rassemblement de Pâques à notre ancienne église qui était Gospel Vie. On est allé au ralliement à cette église-là. Puis le pasteur qui était là, je ne sais même plus qui c'est, qui prêchait, il invite les gens à aller en avant puis d'aller voir pour ceux qui voulaient être guéris. Okay. Puis je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un de malade. Comme je disais tantôt, j'ai une condition, je ne me sentais pas malade parce que je n'ai pas de symptômes avec lesquels je vis à tous les jours. Puis là, je me suis vraiment retrouvée sur mes deux pieds puis je me suis retrouvée en avant. Vraiment comme spontanément, je me suis levée. Puis là, quelqu'un vient prier pour moi. Puis encore là, je sais pas qui a prié pour moi, mais j'ai senti quelque chose qui s'est passé dans mon corps à ce moment-là. Puis je suis revenue m'asseoir à ma place. Puis j'ai dit à mon mari. Mon mari m'a dit, il dit, Seph, je pense qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Il dit, la personne prie pour toi et j'ai senti quelque chose qui s'est passé. Il dit, spirituellement.
Alors qu'il était à sa place.
Lui était à sa place. Il était quelques rangs en arrière. Il dit, j'ai senti quelque chose qui s'est passé. Puis j'ai dit, ouais, moi aussi. Puis là, ça reste là. On s'en va avec la jeunesse manger. C'est comme à chaque sortie de jeunesse, on sortait avec les jeunes jusqu'à 2-3 heures du matin pour les manger. Puis là, on revient à la maison. Puis là, j'avais quand même une médication à prendre pour déclencher mes cycles menstruels que le médecin m'avait dit, il faut que tu prennes ça.
C'est ça, parce que tu n'avais plus de cycle à ce moment-là.
Non, j'avais des cycles une fois par année.
C'était l'anarchie totale, quoi.
Ouais. Puis le docteur m'avait dit, je veux que tu prennes ça à chaque mois. Donc, ça faisait depuis le mois de février, je pense, que j'étais là-dessus.
D'accord.
Puis pour déclencher mes cycles. Puis là, je devais prendre ce médicament-là. Puis elle m'avait toujours dit, tu fais un test de grossesse avant. Puis, ouais, pourquoi faire, tu sais?
C'est ça, ouais.
Pour encore être déçue. Mm-hmm. Puis là, je dis, oh, ben j'en ai un, je veux le faire. Puis là, je fais le test. Puis il est 3 heures du matin, mon mari, mon cher Danny est déjà couché. Mm-hmm. Puis là, je hurle dans la maison. Je dis, chérie. Il dit, oh, quoi? Je suis enceinte. Il dit, c'est pas drôle. Je dis, non, check. Puis là, avec le test de grossesse dans la face, je suis enceinte, regarde. Comme, voyons. Puis, on s'est couché, mais là, le lendemain, je suis allée me chercher 6 autres tests de grossesse. Parce que je voulais être sûre. Je voulais être sûre que j'étais enceinte.
T'avais trop fait de tests négatifs.
C'est ça, j'en avais trop fait négatifs.
Les faux espoirs, en fait, font trop mal.
À chaque fois, ouais. Puis là, j'ai fait les 6, donc ça faisait un total de 7.
C'est radical, en tout cas.
Ah oui. Je voulais vraiment savoir. Je voulais être sûre.
Et les 7 étaient positifs.
Je vous épargne la tête de la commis aux gens coutus quand elle m'a vu partir avec 6 tests de grossesse. Tout ça, oui.
À la pharmacie.
Oui. Et c'est ça. Donc, on a accueilli notre belle petite Maëlie en novembre 2010.
Wow.
Ma condition de santé n'a pas changé.
C'est ça.
J'ai toujours des ovaires polykystiques. J'ai toujours des problèmes avec mon poids, avec mes hormones, avec tout ce qui venait avec. Mm. Mais ça m'a pas empêché de tomber enceinte d'un deuxième beau petit garçon.
11 mois plus tard, c'est ça?
Ils ont 18 mois de différence. Ouais. Donc, un beau Liam qu'il est arrivé par surprise qu'on comprenait pas. Et j'étais fatiguée. Je disais à mon mari, je suis fatiguée. J'avais été à une conférence de Jesus Culture quelques semaines avant. Puis je me remets pas de la fatigue, la route. Je suis vraiment brûlée. Pour me coucher un soir, puis me rendre compte que ça bougeait dans mon ventre.
Oh, et c'est là que tu as réalisé que tu étais enceinte.
Oh, ben quelque chose. Puis la même chose, je suis allée chercher 8 tests de grossesse cette fois-ci. Oui, je suis pas mal intense. Je vais vraiment être sûre.
C'est vraiment radical.
Oui, vraiment.
C'est tout ou rien.
Exact.
Et les 8 étaient positifs.
Les 8 étaient positifs. Et Liam est arrivé en juin 2012. Donc, c'est ça. Il va avoir 6 ans la semaine prochaine. Et il y a 2 ans, on a accueilli notre petit dernier, Joshua. Joshua Ruben, c'est son vrai nom complet. On avait décidé de ne plus avoir d'enfant. Moi, j'avais dit, c'est terminé. Je venais de sortir mon EP. J'enregistrais mon EP, justement. Puis j'avais dit, oh, c'est fini. J'avais tout revendu, mes affaires de bébé, tout. Puis j'étais contente parce que je remettais des talons. J'avais plus de sac à couche. Puis j'étais vraiment heureuse. Ouais. Et je m'en vais à une conférence. Puis j'aime ça toujours demander au Seigneur, c'est quoi la prochaine saison de ma vie? C'est quoi avec un mot. Souvent, c'est défini par un mot. Et là, j'entends le mot Ruben. C'est Ruben. Puis je me souviens, j'étais avec mes amis, puis ma belle-sœur aussi qui était là. Puis là, on cherche qu'est-ce que ça veut dire, Ruben.
Oui.
Puis Ruben, ça veut dire voici un fils.
Oh.
Et là, j'étais comme, hein. Et jamais ça m'a traversé la tête que j'aurais à notre enfant. Et ce qui devait arriver arriva. Je suis tombée enceinte et d'un beau petit garçon qui s'appelle Joshua Ruben et qui est vraiment... On prie là-dessus, ça a été très long à accepter le fait que j'étais enceinte. Je suis vraiment passée du moment où je voulais des enfants à un moment où c'était terminé, puis j'avais dit...
T'en voulais plus?
J'en voulais plus, c'était vraiment fini. Puis j'ai dû dealer avec l'inverse, le fait que c'était terminé. Donc, ça m'a pris du temps à accepter cette grossesse-là. Et c'est ça, je prie vraiment qu'il soit un sujet de joie et c'est vraiment ce qu'il est à chaque jour. C'est un, comme je l'appelle, mon petit bundle of joy. Vraiment, mon petit... Il est joyeux tout le temps. Oui, il sourit tout le temps. C'est vraiment un bébé facile. Et donc, c'est ça. Oui, maintenant, on voit le résultat de 3 enfants plus tard. Mais il y a eu les ups et les downs avant que je tombe enceinte de Miley. C'était vraiment difficile. Il y a eu des crises d'anxiété, des crises d'angoisse. Il y a eu des pleurs. Il y a eu des moments où j'étais fâchée avec Dieu. Des moments où, oui, j'ai cassé des choses dans la maison. Quand t'es plus capable, comment ça, je comprends pas, où j'ai explosé d'incompréhension, puis de pas se sentir aussi à la hauteur, de pas pouvoir expliquer ce que tu vis non plus, parce que mon mari a toujours été présent, il a toujours essayé de comprendre, mais lui aussi voulait des enfants, mais je pense que lui aussi s'est oublié là-dedans, parce que moi je vivais les émotions comme beaucoup plus fort, puis il voulait prendre soin de moi, puis souvent en tant que femme, c'est comme je disais plus tôt, on s'identifie au fait d'être maman, et mais ça a vraiment été une épreuve pour nous deux où notre couple s'est vraiment resserré, où on a vraiment pris... On s'est vraiment comme... nos liens se sont tissés encore plus forts parce qu'on vivait ce combat-là à deux, on vivait cette épreuve-là à deux, même s'ils ne comprenaient pas tout, mais ils étaient juste là, ils étaient présents, puis ils arrivaient pas. Souvent, les hommes, c'est ça qu'ils essayent de faire, ils essayent de réparer nos émotions, mais là, ils arrivaient juste... Je ne comprends pas tout ce que tu vis, mais je suis là.
Puis, c'est important, ça.
Oui, vraiment, de sentir écouté, de sentir appuyé. Puis aussi souvent, en tant que femme, on vit comme si c'était juste nous, mais eux aussi, en tant qu'hommes, ils vivent leur...
Mais ils ont des attentes aussi, le désir d'être aussi, père existe c'est aussi.
Ça. Ça existait aussi pour lui. Ouais. Et voilà, ça a été vraiment, comme je disais plutôt, des up and down, des moments où tu es plein d'espoir, puis des moments où tu es vraiment au bord du désespoir, tu es au bord du gouffre, tu te sens bonne à rien, tu te sens que tu serviras jamais à rien.
Donc, et si c'était à refaire, dans le sens où maintenant que tu sais que tu connais vraiment, tu as expérimenté la fidélité de Dieu, tu as su, tu as vu qu'il ne t'avait pas oublié, si c'était à refaire, comment tu vivrais toute cette étape? C'est une question difficile, mais ça peut aider les femmes qui nous écoutent, qui elles-mêmes ont reçu peut-être un diagnostic leur disant « tu n'auras jamais d'enfant ». Oui. C'est pas possible, c'est fini pour toi. Des hommes aussi d'ailleurs, parce que c'est pas juste des femmes, c'est des hommes, des femmes. Comment tu pourrais justement leur dire d'appréhender cette saison de vide un petit peu, mais en sachant que la promesse arrive?
Ok, alors mon conseil que je donnerais, c'est vraiment de s'attacher à qui Dieu est pour nous. De vraiment fonder notre identité en qui on est en lui, pense qu'on peut être ou ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut devenir, de vraiment s'appuyer juste sur lui. Parce que, comme je disais plus tôt, souvent, en tant que femme, on va se définir par rapport au fait d'être une femme accomplie, d'être une mère accomplie. Mais vraiment, ce qu'on est défini, c'est d'être une fille accomplie de Dieu. Puis c'est vraiment ça, c'est de s'ancrer de toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? C'est quoi que tu dis pour ce moment-là? Puis vraiment d'écouter ce que lui dit, parce que dans mes saisons de désespoir, il était mon espoir. Dans mes saisons où j'étais pleine d'espoir, il était là aussi. Dans chaque saison, il répond exactement à ce par quoi on passe. Parce que là, aujourd'hui, tu as besoin de grâce, mais demain, tu peux avoir besoin d'espoir. Aujourd'hui, tu as besoin d'un encouragement, puis demain, tu peux avoir besoin d'autre chose. Mais lui, il sait exactement. C'est lui la source, c'est lui qui sait le besoin que tu as aujourd'hui, même avant que toi tu le saches. C'est lui qui le sait. Donc c'est vraiment d'aller chercher ce que lui, il dit à ce moment-là. De ne pas se reposer sur la manne d'hier ou de ce qu'on a reçu hier, c'est de se ressourcer à chaque jour dans qu'est-ce que lui, il a pour aujourd'hui.
Oh, amen. Et il nous reste quelques petites minutes. Est-ce que tu veux bien prier pour ces couples qui nous écoutent, qui soupirent après la manifestation de cette promesse de Dieu? Tu veux bien?
Ben oui, ça ne me dérange pas. Ah Seigneur, je veux te remercier pour le miracle que tu as fait dans notre vie à Dani et moi. Je te prie, Seigneur, pour toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs qui sont là et qui écoutent, Seigneur, je te prie vraiment de leur donner le courage, de leur donner l'espoir, de parler en ce moment sur ce qu'ils ont besoin d'entendre, Seigneur. Je te prie pour que les kystes qui sont sur les ovaires ne soient pas des obstacles, que chaque diagnostic qui a été déclaré par les médecins soit surpassé parce que toi, tu déclares, papa. Merci parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu changes pas et que tes promesses sont oui et amen. Et lorsque tu as déclaré, il y a personne qui peut enlever ce que toi, tu as déclaré. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Jésus parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est la promesse qui nous a été donnée, Seigneur. Et je te prie que chaque couple qui écoute aujourd'hui ou chaque personne qui est seule et qui a ce désir, Seigneur, je te prie de vraiment les envelopper dans tes promesses, Papa. Merci parce que aucune prière, aucune supplication ne retourne sans que ça fasse effet. Merci Jésus pour ce que tu fais dans leur vie. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Séphora, d'être venue nous partager ce témoignage. Merci pour cette belle famille que vous êtes, tous les cinq, finalement.
Oui, finalement.
Le plan de Dieu nous surprend toujours. Oui. Donc, encore un témoignage. Vous avez vu là trois différents témoignages. Et demain, nous aurons encore d'autres témoignages extraordinaires. Comment Dieu a pu bénir ses couples en leur donnant ce que leur cœur désirait, finalement. Donc, c'est disponible pour vous aussi. Ne manquez pas l'émission de demain. Nous continuerons sur notre thème. Nous allons parler des fausses couches et de comment se relever après une fausse couche. Et puis, nous aurons également le témoignage de mon témoignage et le témoignage de mon mari, comment Dieu nous a exaucés. Vous pouvez découvrir ça dans la rubrique « C'est mon histoire ». Nous aurons culture et médias. Nous allons vous présenter un livre qui est formidable pour les couples qui sont en attente de leur exaucement. Donc, ne manquez pas cette émission et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.